Alors, bonjour à tous. Dans cet enregistrement, on va voir ensemble comment exploiter toute la puissance du référencement sur Google, le SEO, dans un plan marketing digital P2P. Je vais essayer de vous donner quelques petits conseils que j'ai retenus de mon expérience pour justement votre plan d'action marketing B2B. Alors, la première chose, en fait, c'est que là, on va faire un focus sur le SEO en B2B, mais malheureusement, ça ne suffit pas. Si, en fait, vous vous concentrez que sur du référencement en Google, ça va être compliqué. Parce que vous ne serez pas en fait dans le top of mind, c'est-à-dire que la liste des références, etc. Lorsqu'un prospect en fait va chercher un fournisseur, ça en fait c'est vraiment essentiel parce que souvent trop de personnes se disent ouais moi je me contente en fait soit de la publicité donc justement Google Ads, soit en fait du SEO, soit du réseau social, soit du growth hacking, etc. etc. Certes. C'est un des éléments, mais en fait, ça va pas faire un plan marketing qui va être efficace, puisqu'en fait, on sera jamais présent sur tous les mots-clés avec le SEO. On sera avec la Google Ads, on peut jamais être présent non plus sur tous les mots-clés, ça coûte trop cher, et en particulier sur les besoins un petit peu en amont en fait de l'acte d'achat, ou payer un co-clic important, c'est pas très rentable. Donc en fait, il faut donc avoir un peu de tout. Il faut varier ses sources de trafic sans être trop dépendant d'un canal. C'est-à-dire que si vous êtes trop dépendant de Google Ads, et ce qui va arriver, c'est que si jamais les concurrents augmentent leur prix, comme ça a été le cas pendant toute la période de Covid où il n'y a plus d'événements physiques, les prix des Google Ads ont explosé. Et donc, en fait, c'est très compliqué. Pareil, le référencement de Google, si 90% de votre trafic vient de Google, à un moment donné, vous allez avoir un souci si vous avez un problème de référencement ou tout simplement, et ça je le constate, hein, le référencement naturel sur Google, 90% des leads ou 95% des leads qui viennent de Google, souvent sont hors cible, étudiants, prospects non matures, étrangers, etc., etc. Alors que généralement sur AdWords, vous avez quand même des gens qui sont plus en maturité d'achat, vous avez choisi les bons mots-clés, là c'est beaucoup plus efficace. Donc ma recommandation est simple, il faut choisir un bon mix dans son plan marketing. À la fois du référencement naturel qui permet de se positionner en tant qu'expert, d'éduquer ses prospects, être en amont de l'acte d'achat, via des guides d'achat, via des sites d'information sur des problématiques, etc. En complément à la pub, bien entendu, Google Ads, mais pourquoi pas du Facebook Ads également, si vous souhaitez un petit peu élargir votre audience. Un peu de réseau social, création de contenu, ça peut être des webinaires, des podcasts ou des sites B2B, comme par exemple Webikeo, qui fonctionne pas mal avec plusieurs centaines de milliers d'inscrits à leur site. C'est également les partenariats, les actions avec les influenceurs, tout ce qui est par exemple prescripteurs, les interviews d'influenceurs, l'achat de visibilité, l'article sponsor, etc., etc. Et bien entendu, ça peut être d'autres canaux. En tout cas, voilà, il faut se concentrer sur un plan marketing équilibré et le référencement naturel pour moi sur Google est quand même important. Alors, avant de se lancer dans ce référencement naturel, il faut quand même réfléchir à quelques fondamentaux. Déjà, c'est quel est en fait vraiment votre positionnement. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Si vous n'avez pas réfléchi à votre persona, c'est-à-dire qu'est-ce qui reste, quels sont ses problèmes, quels sont les mots-clés qui tapent, etc., etc. Mais en fait, vous n'allez pas pouvoir mettre un bon référencement en place. Donc, il faut vraiment commencer par ça. Ensuite, c'est réfléchir au cycle des ventes avec les contenus et les besoins qui peuvent intéresser le prospect. En effet, je dis toujours, en B2B, le cycle des ventes, il est souvent assez long. C'est-à-dire que, une personne ne va pas chercher un produit et il va commander derrière. Et donc, parfois, il y a toute une phase de maturité, de recherche et ensuite, de choix du produit. Et après, il y a bien sûr l'utilisation après. Et donc, il vaut mieux être présent sur la fin du cycle d'achat que le début du cycle d'achat. C'est le fameux tofu, mofu, bofu. C'est-à-dire que le tofu, c'est top of the funnel, c'est-à-dire la partie découverte, c'est-à-dire en phase d'émergence du problème. Je sais pas si je suis dans le CRM, je dirais, c'est des gens qui cherchent à organiser une équipe commerciale, à mieux gérer leurs prospects, à, par exemple, manager une équipe commerciale, à définir, je sais pas, un plan d'action commercial, des gens comme ça, ou améliorer une base de prospects, structurer une équipe de prospection, voilà, tous ces gens-là. Là, on est vraiment dans des contenus qui sont pas encore. La personne n'est pas encore prête à acheter, elle est vraiment un peu consciente du problème, mais c'est tout. Ensuite, il y a le MOFU, Middle of the Funnel. Là, on est vraiment dans l'évaluation, c'est-à-dire que c'est là où la personne commence à se dire, ouais, j'ai vraiment un problème. J'ai vu avant que j'avais un problème avec mon équipe commerciale, j'arrivais plus à la gérer correctement. Dans ces cas-là, peut-être qu'il va falloir que j'utilise une autre solution. Et là, en fait, elle cherche vraiment une solution et elle se dit, est-ce qu'un CRM c'est fait pour moi? Est-ce que j'ai plutôt besoin de, je sais pas, d'un autre outil qui peut être par exemple de l'analyse des conversations téléphoniques? Est-ce que j'ai pas besoin, par exemple, d'un outil de phoning? Bref, la personne est en évaluation en se disant, bah tiens, comment améliorer l'efficacité de son équipe commerciale? Comment fonctionne un CRM? En quoi un CRM peut m'aider? Bref, elle est vraiment dans cette phase-là. Et à la fin, il y a le beau flux, bottom of the funnel. Funnel, à chaque fois, c'est le tunnel, hein, l'entonnoir des ventes. Et là, on est vraiment dans l'acte d'achat, où la personne recherche à ce moment-là des informations. Ben, par exemple, elle cherche à voir une démonstration, des témoignages clients, des avis, des comparatifs, un guide d'achat et tout ça. Donc, on est vraiment dans des contenus qui sont totalement différents. Le tofu, on est vraiment là pour faire prendre conscience du problème. C'est-à-dire que on va peut-être faire des infographies, on va peut-être mettre des trucs humoristiques. Et puis après, dans le mofu, là, on va essayer de convaincre le client que votre produit, c'est la bonne solution, avec des livres blancs, des webinaires, des mini-formations, des enquêtes, des quiz et des choses comme ça. Et à la fin, le beau flux, on est vraiment dans quelque chose qui va être là pour inciter la personne à vous faire confiance et passer avec vous, avec des témoignages clients, des comparatifs, etc., comme je le disais. Donc, tout cela, en fait, c'est une stratégie de contenu qu'il faut mettre en place. Comme je le disais, bien sûr, faire un focus au départ sur la fin du cycle d'achat, avec bien sûr en téléchargement vos fiches produits, les cas, des checklists, des démos, etc., etc. Et puis tout en haut, en fait, là, on est vraiment dans la partie éducation avec des guides, des infographies, etc. Sachant qu'on peut aussi essayer de faire des choses un petit peu drôles. Si, par exemple, vous pouvez faire une vidéo virale, une vidéo humoristique, etc., etc. Ça vous permet, en fait, de créer des contenus qui sont bien en amont du cycle d'achat, mais qui permettent en fait de toucher un peu plus de volume. Donc une fois qu'on a fait ça, on a un petit peu identifié quel type de contenu on allait pouvoir créer, ben on va pouvoir passer à l'audit de contenu. Parce que avant de créer des contenus, il faut déjà savoir s'il n'y a pas quelque chose à récupérer. Donc généralement, dans les entreprises, dans les disques durs, il y a des fiches Word, des PDF, des fichiers Excel, des PowerPoint, par exemple des réponses aux appels d'offres, vous des checklists avant de lancer un projet, des choses comme ça, des strips de qualification. Bref, tous ces trucs-là peuvent vous servir en fait à créer des contenus sans devoir les créer de A à Z, mais en reprenant et les actualisant. Ensuite, bah, vous allez pouvoir définir quels sont les indicateurs clés. Souvent, en référencement, ça va être le trafic du site, le nombre de mots-clés référencés, mais c'est également aussi donc les prospects qui sont générés directement par le référencement. Livre blanc, visite des pages, remplissage de trucs de démo, etc., etc. Donc c'est pour ça que c'est super important de traquer, parce que les personnes peuvent très bien venir de Google Ads, peuvent venir du SEO, peuvent venir des réseaux sociaux, et donc vous devez absolument savoir d'où ça vient. Voilà. Donc là maintenant, on va s'intéresser un peu plus au référencement naturel. Alors, une petite intro en amont, c'est se dire que il y a beaucoup de facteurs qui influence le référencement naturel. Il y en a beaucoup qui sont au niveau des backlinks, donc des liens qui pointent vers votre site. Il y a tout simplement la qualité du contenu, la récence, les mots-clés utilisés, la précision des contenus, tout ce qui est compatibilité mobile, la rapidité, etc., etc. Bref, le site qui est SSL. Donc là, je vous rappellerai pas, mais en fait, grosso modo, Google, en fait, il classe déjà les sites selon les thématiques. Si vous avez un site sur, je ne sais pas, le CRM, on va reprendre encore cette idée-là, le CRM, et que tout d'un coup, vous abordez un sujet qui est complètement à part, qui est, je ne sais pas, les machines industrielles ou, je ne sais pas, les réseaux sociaux, voilà, on parlera des réseaux sociaux, et bien, en fait, c'est un petit peu en dehors de votre thématique. Or, Google, il a dit, ouais, mais ce site-là, il est super pertinent pour le CRM. Là, il est en train de me parler de TikTok. Il va se dire, non, mais TikTok, CRM, ça n'a rien à voir. Donc, forcément, il va dire, bah non, même si vous avez fait un bon article, un article long, bah, il y a moins de chances d'être visible parce que votre article n'est pas dans la thématique qui était reconnue, entre guillemets, par Google. Ensuite, il y a bien sûr les sites de référence. Et bien, en fait, pour cela, en fait, il identifie les liens qui pointent. Si, par exemple, vous avez beaucoup de sites internet, beaucoup de partages sur les réseaux sociaux, des choses comme ça, et bien, en fait, ça veut dire que bah, c'est un site de qualité, c'est un site qui compte. S'il y a, par exemple, des sites d'actualité connus, je dis n'importe quoi, mais ça peut être Le Monde, ça peut être Journal du Net et tout ça qui pointe vers votre site à vous, bah, ils se disent, ah ouais, mais ce site-là, il est connu, c'est pas un petit nanar, c'est pas un site spam. Donc, ça veut dire quelque chose à ses yeux. L'autre point, en fait, c'est que vous devez aussi guider Google. Guider Google pour lui dire, hey, voilà ce qui est important dans cet article-là. Et c'est pour ça, en fait, qu'il faut mettre dans les URL les mots-clés, dans le titre, dans les sous-titres, dans le premier paragraphe, dans la table des matières, dans le texte, Bref, il y a tous ces trucs-là en fait qui vont faire, et les liens internes aussi hein, entre, dans votre site. Donc en fait, tout ça, en fait, ça doit dire à Google, hey, c'est ce mot-clé-là qui est dedans. Et là, moi, par exemple, j'utilise en particulier le plugin web qui s'appelle RankMath SEO, qui permet en fait justement d'aller optimiser son site pour ces fameux mots-clés qu'on aura définis. Donc, l'autre point, c'est que, ok, c'est bien d'expliquer à Google que c'est un article qui va être sur tel sujet, qui est positionné sur tel mot-clé. Mais aussi, il faut que vos mots-clés soient pertinents. Généralement, on dit qu'il faut que ce soit des contenus IT, c'est-à-dire expertise, authority, trust, donc qui est de l'expertise, de l'autorité, de la confiance. Ça veut dire qu'il faut que les gens restent longtemps sur la page, que l'internaute ne retourne pas sur Google rechercher encore des infos, que les informations soient à jour, qu'il n'y ait pas de lien brisé, etc. Donc ça veut dire que s'il y a un contenu qui est top, que les gens restent longtemps et que c'est contenu de qualité, alors ils se disent, ah ouais, mais ça c'est bien. Et enfin, il y a tout ce qui est la partie navigation, parce que c'est pas tout de créer du bon contenu. Mais si c'est compliqué à lire, si c'est lent à charger, ben forcément Google il n'aime pas. Et c'est là en fait qu'il y a les Core Web Vitals qui sont en fait les indicateurs. Donc vraiment cette logique-là, elle est simple, c'est une logique en entonnoir. Vous avez un d'abord la thématique du site, deux les liens qui pointent, le contenu de qualité, les mots-clés dans la page, la qualité, la précision du contenu et l'optimisation pour la lecture sur le web. Donc on est vraiment sur comme ça une descente et ben, si vous n'avez pas tous ces éléments-là, bien sûr ça va être compliqué. Voilà. Donc ça, c'était la partie SEO. Donc il y a quelques éléments en fait qui sont importants de reconnaître, c'est que écrire du contenu long, eh ben c'est important. Malgré tout ce que peuvent dire les gens, ils disent ouais, les gens lisent plus, les gens n'ont pas le temps de lire, préparent le stack content avec du TikTok, des vidéos, etc. Oui, c'est vrai. Mais pour Google, lui, son objectif, c'est de mettre en avant des articles de référence. C'est pas de mettre en place un tout petit truc. C'est pour ça en fait qu'il faut des articles longs, parce que moi d'expérience, je sais que en moins de 500 ou 800 mots, eh ben on fait de la merde. C'est-à-dire qu'on reste en surface sur un contenu. On n'est pas dans des contenus super pertinents. Donc, en fait, si on veut créer un contenu de référence, pour moi, il faut un minimum de 1000 mots. Ensuite, il faut du contenu intéressant, et ça, je vous dirai pourquoi. Parce qu'en fait, si la personne reste pas longtemps, et si elle se barre, ou si le contenu n'est pas terrible, c'est mauvais pour votre image. Donc, il faut plus faire ça. Donc, le contenu doit être intéressant, même si je reconnais qu'il faut de temps en temps faire du contenu SEO pas génial, mais il faut quand même idéalement essayer de faire quelque chose qui va être top. Donc ensuite, faut plus attendre que Google trouve votre contenu, mais il faut vraiment lui dire, hey, regarde, il y a un truc sympa. Donc ça veut dire publication sur les réseaux sociaux, lien interne depuis votre site web, lien depuis d'autres sites web, pourquoi pas pousser en fait vos newsletters dessus. Bref, tout ça en fait qui va faire que Google va se dire, hey, il y a une actualité, il y a quelque chose qui se passe là, donc je vais aller regarder ce truc-là. Alors, quelques petites astuces. J'en ai parlé de 8 astuces pour améliorer votre SEO en 2022, dès maintenant. Donc la première chose, c'est utiliser les nouveaux termes et le newsjacking. Le newsjacking, qu'est-ce que c'est? C'est essayer d'attraper une tendance à la mode pour tout simplement attirer du trafic. J'en dis un peu plus dans quelques secondes. Il faut savoir autrement sur les mots-clés. Les mots-clés, il faut vraiment être clair, les mots-clés génériques, un à deux mots, hein, une expression générique, ça devient de plus en plus compliqué. Par exemple, se positionner sur le mot-clé CRM, c'est devenu quasiment impossible. Mais par contre, on peut essayer d'espérer d'être présent sur CRM PME, CRM pour les assurances ou des choses comme ça qui sont un peu plus faciles, mais encore c'est dur. Et donc, si vous voulez être plus fort que vos concurrents sur ces mots-clés un petit peu génériques, à deux mots, trois mots, et ben il faut des contenus plus longs, il faut plus de liens, il faut que les gens passent plus de temps sur la page, etc. etc. Mais en même temps, il est possible aussi d'aller se positionner sur des mots-clés avec moins de volume, mais plus précis. C'est des mots-clés avec 3, 4, 5 expressions. Enfin, c'est des expressions avec 3, 4, 5 mots-clés. Ça, c'est un peu plus compliqué, mais il faut essayer de trouver des mots-clés qui sont très pertinents, qui sont proches de l'acte d'achat. On peut également utiliser les nouvelles expressions. Ça, c'est souvent en fait quelque chose qui marche bien, parce qu'en fait, tout simplement, c'est des expressions qui sont pas encore très concurrentielles. Par exemple, moi, dans mon domaine, il y avait le mot-clé callbot. Le mot-clé callbot était vraiment nouveau dans le secteur, mot-clé callbot, voicebot, et jusqu'à présent, il y avait quasiment pas de concurrence. Donc, même avec un seul mot-clé dans une expression, callbot, et ben j'arrivais à me différencier tout simplement parce que j'étais le seul. Et en fait, pour cela, j'ai tout simplement utilisé plusieurs choses. Bien sûr, les nouvelles tendances, j'ai ajouté des articles sur ces nouvelles tendances. Et c'est pour ça que quand vous faites une sélection de mots-clés, vous avez votre fichier avec les mots-clés tendances, les mots-clés stars, les mots-clés des concurrents, blablabla, tous ces trucs-là, en fait, tous ces mots-clés que vous devez en fait être présents. Et donc, ces mots-clés stars, ces mots-clés tendances, ces mots-clés un peu originaux qui arrivent, bah, vous devez en fait les utiliser. Pour cela, vous pouvez utiliser des outils comme SEMrush, qui est vraiment pour moi l'outil qui est le plus intéressant. J'en parle toujours de SEMrush, mais pour des mots-clés très 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 récents qui sont vraiment à la mode, parfois c'est un petit peu compliqué de trouver des mots-clés pertinents. C'est pour ça en fait que il faut utiliser Google Suggest. Qu'est-ce que c'est Google Suggest? C'est que vous tapez un mot-clé. Par exemple, vous tapez le mot-clé callbot dans Google et tout en bas de la page, vous avez les recherches associées. Et ça, c'est Google qui vous les propose. Et autant sur les mots-clés un petit peu anciens, ça va, vous trouvez sur SEMrush ou les autres outils comme cela. Autant en fait pour les mots-clés récents, vous les trouverez pas. Et donc c'est parce qu'ils se mettent pas à jour suffisamment rapidement. Et donc en fait, vous pourrez quand même trouver dans la Google Suggest, eh ben, des idées de mots-clés. Avec, par exemple, si vous tapez callbot, vous ferez callbot définition, vous trouverez, par exemple, chatbot vocal, tous ces trucs-là. Donc vraiment, ça c'est vraiment intéressant de travailler sur ces actualités saisonnières ou ponctuelles. Par exemple aussi, imaginons qu'il y a une nouvelle loi, un lancement de produit, une nouvelle offre que vous lancez vous, eh ben, bien entendu, il faut être présent sur ces mots-clés. Mais également, si vous avez par exemple un salon, un gros salon thématique, bah c'est vraiment intéressant de se positionner sur ces mots-clés. Parce que les gens qui vont chercher des infos, par exemple, sur un salon stratégie client, eh ben ils vont tomber en premier sur le site du salon, mais après, derrière, il y a de fortes chances, en fait, qu'ils tombent sur d'autres personnes qui parlent de ça, soit des sites d'actualité, soit des concurrents. Et en étant présent là-dessus, bah, vous avez la possibilité d'être deuxième, troisième, quatrième dans la liste. Et si vous mettez, tiens, je serai présent au salon stratégie client pour telle conférence, et ben à ce moment-là, vous allez pouvoir les attirer. Voilà, petite astuce. Deuxième astuce, chouchouter vos top articles. Ça aussi, c'est vraiment important parce qu'en fait, Google a une énorme inertie. C'est-à-dire qu'il y a certains articles qui vont rester dans les numéros 1 pendant des mois, voire des années. Et pour éviter qu'ils tombent en désuétude, et ben il faut les actualiser régulièrement. Pour identifier ces top articles, ben vous allez tout simplement dans Google Analytics, vous allez dans Comportement et vous allez dans Contenu du site, toutes les pages. Et ensuite, vous avez donc toutes les pages qui génèrent tant de trafic. Et vous allez tout simplement après comparer. Et vous allez comparer par rapport à l'année dernière. Et comme ça, vous allez voir les pages les plus vues et leur évolution de trafic sur un an. Et s'il y a une base de trafic, ça veut dire que ben, vous devez rebooster ces articles, c'est-à-dire remettre des contenus, supprimer les liens brisés, supprimer les images, supprimer les images inutiles, mais au contraire, ajouter des images, ajouter des vidéos, ajouter du contenu. Alors attention, il ne faut pas non plus trop diluer le contenu, parce que si vous rajoutez trop de contenu, ben Google ne sait plus trop quel est le mot-clé qui est pertinent là-dedans. Donc il faut toujours rester dans la thématique, supprimer les choses qui sont obsolètes et rajouter des contenus frais. Voilà, des phrases, contenus frais, ce que j'appelle du contenu frais, c'est des phrases clés, des paragraphes en plus, et des choses comme ça. Voilà. Conseil numéro 3, mettez de l'humain et votre expertise et racontez de belles histoires. Moi, je dis toujours, en B2B, le contenu corporate où on raconte que des trucs blabla, qui sont pas intéressants, qui sont pas standards, est mort. Il faut vraiment se différencier en apportant de la valeur, c'est-à-dire faire parler son expérience, parler de ses cas pratiques, etc., etc. Les gens veulent vraiment des avis, ils veulent des exemples. Et en fait, il y a une étude qui a été montrée par Backlink Info qui montre que les contenus qui ont du sentiment, c'est-à-dire qui font passer, par exemple, tiens, des émotions, les choses que je ne ferai jamais, il ne faut jamais faire ça, 10 choses à arrêter ou des choses comme ça, et ben en fait sont beaucoup plus vues et donc cliquées sur Google que sur que des contenus un petit peu classiques. Voilà. Quatrième point, ne créez plus des contenus SEO pourris. Alors oui et non, bien sûr, la règle c'est ne plus en créer, parce qu'en fait pendant très longtemps c'est vrai que il suffisait en fait de créer du contenu un petit peu pourri sur des expressions et on était présent. Maintenant en fait il y a deux choses, c'est que tout le monde crée du contenu un peu pourri, donc forcément s'il est un peu pourri, les contenus qui sont au-dessus du lot attirent plus de visiteurs, font rester les internautes plus longtemps sur la page, donc en fait vous allez rester plus longtemps visible et donc vous allez monter en premier. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que une personne qui va lire votre contenu et qui va avoir un truc pas terrible, eh ben qu'est-ce qui va se passer? Eh ben il va dire mais c'est quoi ce site-là? C'est de la merde, c'est pas de l'expertise, c'est pas intéressant. C'est pour ça en fait qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment essayer d'avoir du contenu de qualité. Si vous, vous ne pouvez pas rédiger du contenu de qualité, et ben en fait il y a une technique qui est simple, c'est que vous faites sous-traiter ou vous rédigez ou vous faites sous-traiter à un stagiaire, une assistante, etc., etc., un rédacteur externe, un contenu. Mais après, ce que vous faites, c'est que tout simplement vous allez le booster. Et moi, c'est ce que je fais régulièrement. Je demande par exemple à mon assistant de me dire, tiens, tu vas me faire un texte sur tel sujet. Et ensuite, bah, je le rebooste. C'est-à-dire que je vais lui dire, bah, tiens, enfin, je vais pas lui dire, c'est moi qui vais prendre son article et je vais ajouter des idées, je vais ajouter des exemples, je vais ajouter de l'émotion, je vais faire tout ça. Voilà. Et donc, en fait, grâce à ça, j'ai un texte de base que je vais ensuite optimiser. Cinquième conseil, rechercher les backlinks gratuits et si nécessaire, acheter avec modération des liens. Là encore une fois, c'est on a beau dire, eh ben, les liens comptent encore dans un référencement sur Google. Donc si vous avez des liens de qualité qui pointent vers votre site web, ça va améliorer son référencement. Alors comment on va avoir des liens de qualité? Eh ben, tout simplement, c'est en faisant de très beaux articles et très longs articles. Donc, vous pouvez mentionner les influenceurs dans vos contenus. Par exemple, mettre une citation, mettre un lien vers un site internet et après dire à l'influenceur, hey, regarde, je t'ai cité dans l'article en espérant qu'il le tweete. Et bien sûr, vous allez le tweeter vous aussi, vous allez le mentionner et le mettre dessus, hein, dans vos publications sur les réseaux sociaux. Comme ça, en fait, ça va permettre de faire du lien. Pourquoi pas, enfin, faire du lien, faire des références, attirer du trafic, etc. Les interviews d'influenceurs pour les inciter après à partager sur leur communauté et pourquoi pas faire un relais sur leur site web. Nouer des relations personnelles avec des influenceurs, par exemple, ça peut être les rencontrer, les inviter à bouffer, les rencontrer lors d'événements physiques, leur proposer de contribuer à un blog, enfin bref, voilà. Moi, régulièrement, bah, j'interview des influenceurs et des influenceuses sur mon blog et ça me permet de les taguer sur les réseaux sociaux, ça me permet d'apporter de la valeur ajoutée avec des contenus qui sont un peu différents que ce que je fais moi d'habitude. Et bien entendu, c'est un gage de visibilité parce qu'après j'ai des liens qui pointent vers ces différents articles. Après, bien sûr, sur les contenus viraux, bah, vous avez tout ce qui est enquête, infographie, dessin, cartoon, illustration. Tous ces trucs-là, en fait, contribuent en fait à avoir du contenu qui est original, qu'on ne voit pas ailleurs et qui vont vous permettre de générer des backlinks, des liens entrant vers, enfin, des liens qui pointent vers votre site web. Là, par exemple, il y a 2 ans de ça, on avait fait une étude sur le domaine de la banque mutuelle assurance et on avait été repris par pas mal d'entreprises dans le domaine de l'assurance et bim, ça avait tout simplement permis en fait d'avoir des liens qui pointaient sur le site et donc d'améliorer le positionnement du site. Si vous souhaitez aller plus loin là-dessus, il est possible aussi d'analyser les blogs, les sites d'actualité de votre thématique qui ont des liens brisés. Et en fait, pour cela, vous avez un site qui s'appelle Ahrefs, donc c'est un concurrent de SEMrush, donc Ahrefs, qui permet en fait tout simplement d'identifier sur un site les liens brisés et de dire, ah tiens, sur tel article, il y a un lien qui marche plus, si vous voulez, tiens, il faut le remplacer par tel truc, et moi, je peux vous proposer aussi d'ajouter telle chose. Voilà. Donc vous proposez à la personne qui a un blog, un site web, un forum, un site d'actu, de supprimer le lien brisé de son site internet, et si ça l'intéresse, de contribuer à un article de blog ou ajouter quelques lignes dans cet article-là, le mettre à jour et bien sûr mettre un lien vers votre site web. Après, ça peut aussi se faire d'autres manières. Vous pouvez payer des articles sponsorisés, vous pouvez également acheter des articles sur des plateformes comme Rocket League ou GetFluence. Sixième point, faites une recherche documentaire. Alors ça, c'est vraiment essentiel. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait plus faire du contenu pourri. Et donc, en fait, un article doit être un article de référence. Donc, pour cela, en fait, il faut travailler en interne et trouver ses bonnes idées. Mais, en fait, on n'a jamais le monopole des bonnes idées. Donc, moi, ce que je recommande toujours, c'est faire une recherche documentaire. Une recherche documentaire, ce n'est pas voler. C'est-à-dire que vous n'allez pas essayer de pomper des articles. C'est-à-dire que vous allez d'abord commencer à créer votre article avec vos propres contenus. Et, en fait, une fois que vous avez fait ça, vous dites, tiens, est-ce que j'ai pas oublié quelque chose? Et vous allez taper quelques mots-clés en français, en anglais, etc. Et vous allez dire, ah tiens, ouais, voilà un article, ah j'ai oublié ça. Et vous allez compléter votre contenu. Bien entendu, ça ne veut pas dire pomper, je le dis bien. Hein. Si vous faites du copier, de la traduction, etc. Non. Il faut vraiment ajouter vos idées et quand vous trouvez des idées externes, c'est ajouter votre propre patte. De même, ne reprenez pas les photos, les images qui ne sont pas à vous, hein, bien entendu. Après, en fait, il y a quelques outils qui peuvent vous aider aussi pour rédiger plus rapidement, et ça, c'est mon conseil numéro 7. Il y a les outils de reconnaissance vocale qui permettent de transformer la voix en parole, enfin, la voix en texte, comme par exemple Trint, mais également, vous avez Google Docs. Il y a des outils assez sympas qui vous permettent de suggérer des idées de mots-clés intégrés dans le texte, comme par exemple SEO Writing Assistant de SEMrush ou 1.fr. Donc, bien sûr, tout ce qui est rédacteur offshore que vous pouvez utiliser. Si vous faites vous-même vos textes, utilisez les outils en ligne qui vous permettent d'apprendre à taper plus vite. Plus vous tapez vite au clavier, plus vous ferez du contenu. Donc, par exemple, il y a Typing Club, il y a Agile Fingers qui existent et qui vous permettent en fait comme ça d'aller apprendre à taper au clavier. Utilisez aussi la méthode Pomodoro. Fixez-vous en fait du temps sans être distrait pour écrire vos contenus. Et surtout, 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 fixez-vous une date maximum, enfin une heure maximum pour remettre ou finir votre article. Parce qu'autrement, vous allez écrire un article très très long et vous allez le remettre. Vous allez toujours vous dire, ah non, bah, je finirai demain, je finirai demain. Non, il faut vous dire, tiens, je finis ce soir et ça vous oblige en fait à le terminer. Également utiliser des plans, des trames d'articles. Il y a toujours en fait des petits articles, des plans. Plus vous allez passer du temps à définir votre plan détaillé au départ, avec ce que vous allez dire, ce que vous allez faire, plus vous allez gagner du temps parce que vous allez éliminer les idées inintéressantes, vous n'allez pas écrire de contenu qui va être hors sujet. Donc un mini plan, c'est quelque chose qui est important. Voilà. Autrement, bien sûr, utilisez aussi tout ce qui est synonyme, tout ce qui est correcteur d'orthographe comme Scrivens, synonyme.com, etc., etc. Et bien entendu, enfin, utilisez des petits plugins pour gagner du temps, par exemple WP Table of Contents qui permet de créer des sommaires automatiques. Voilà. En complément, dites-vous que plus vous allez rédiger du texte, mieux vous allez rédiger, parce que plus on crée du contenu, plus tout simplement, en fait, on a l'habitude. Mais faites un effort quand même à essayer de corriger votre orthographe, parce que si vous écrivez sans vous relire, etc., bah, ça va pas être génial. Il faut vraiment essayer de travailler là-dessus et se relire régulièrement. Donc, écrivez aussi vos contenus d'une traite. Moi, je dis toujours, ne faites pas de la mise en forme en même temps que vous écrivez. Écrivez, 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 écrivez au kilomètre. Et une fois que vous avez écrit au kilomètre, là, vous faites de la mise en forme. Là, vous faites des puces, des numéros, etc., etc. Mais au départ, il faut vraiment corriger. Moi, ce que je fais, c'est que généralement, j'écris sur Google Docs ou Word. Et une fois que j'ai écrit mon texte, je fais un copier-coller parce qu'il y a le correcteur d'orthographe intégré qui peut m'aider, etc., etc. De même, comme je disais, la méthode Pomodoro, c'est se concentrer sur son contenu, ne papillonnez pas, ne mettez pas par exemple une musique de fond, ne regardez pas un reportage en même temps, mais fixez-vous une date, par exemple une heure, deux heures, trois heures, ou quatre heures parfois si vous voulez vraiment écrire un contenu de top du top, mais mettez-vous comme ça un timing et faites que ça, accordez-vous un maximum de temps là-dessus. Par contre, comme je disais, fixez-vous une limite, hein. Ne mettez pas par exemple 2 jours, 3 jours, 4 heures, 5 heures, 10 heures à écrire un article. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est trop aléatoire. Vous pouvez très bien écrire un super article de 10 000 mots et finalement, il aura zéro trafic, ce qui m'est déjà arrivé, alors que des articles de 1 000 mots, parfois, sont meilleurs. Donc voilà. Le dernier point, c'est tuer les pages zombies et décapiter les mauvais géants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Les pages zombies, c'est tout simplement dans vos articles de blog où il y a beaucoup de contenu, beaucoup de mots, par exemple 1 000 mots, 2 000 mots, et en fait, ça génère très peu ou pas de trafic. Donc, dans ces cas-là, il y a un problème. C'est-à-dire que c'est les mots-clés qui ont été sélectionnés qui ne sont pas les bons, c'est le texte qui est pas bon, c'est les backlinks qui sont pas bons. Donc, identifiez ces pages-là, soit vous les réécrivez, vous refaites des liens, vous les actualisez, etc. Soit, en fait, vous dites, ce contenu-là, il est nul, et je vais le prendre et je vais le mettre ailleurs. Par exemple, je vais l'actualiser, je vais mettre sur une autre page et je fais une redirection. Ou alors, tuer les géants, c'est quoi ? C'est-à-dire que vous avez certaines pages qui sont très très longues, mais en fait, à force de créer du contenu, ça dilue le mot-clé. Et donc, parfois, il vaut mieux enlever un peu de texte, le mettre dans d'autres pages pour en fait recentrer le contenu. C'est typiquement le cas si par exemple vous avez fait un livre blanc et que vous avez tout le livre blanc de A à Z, ça m'est déjà arrivé de prendre des livres blancs et d'écrire des articles comme ça de 5 000 ou 10 000 mots et en fait c'était trop. Il fallait en fait que je recoupe ce grand article de 10 000 mots en 2-3 articles de 3 000, 4 000, 5 000 mots. Et grâce à ça, en fait, ça permettait d'avoir 3 mots-clés avec des expressions qui sont beaucoup plus centrées sur les différents contenus. Et donc, c'était beaucoup plus efficace. Voilà. Et après, bien entendu, n'hésitez pas à analyser tous vos contenus avec, bien sûr, la Google Search Console ou Google Analytics. Si vous ne savez pas comment fonctionne la Google Search Console, c'est quelque chose qui est livré par Google et qui permet d'analyser en fait d'avoir le point de vue de Google sur votre site, et tapez Google Search Console et Conseil Marketing, donc tapez dans Google, hein, Google Search Console, Conseil Marketing, et vous aurez le mode d'emploi avec les rapports idéaux à utiliser. Allez, j'espère que ce contenu vous a aidé, à très bientôt, bye bye.